Nous sommes mercredi 19 août 2026. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Regard sur l'actualité sur Djeliba FM 105.0. À la présentation, Omar Koïta, la mise en onde est assurée par Boubacar Traoré Grambé. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible qui continue de susciter de nombreux débats au Mali, l'excision, pratique culturelle pour certains. Atteinte aux droits fondamentaux pour d'autres, l'excision soulève des questions de santé, de religion, de tradition et de protection des femmes et des filles. Comment comprendre ces débats? Quels sont les enjeux pour notre société? Quelle est la solution pour l'avenir? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Fatima Maïga, experte en droit humain, genre et autonomisation des femmes, avec plus de 20 ans d'expérience internationale, diplômée de la Sorbonne et de Columbia University. Elle a dirigé l'ONU Femmes en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010. Ancienne chef de cabinet des deux ministres maliens, elle a contribué à l'adoption de la loi 052 sur la représentation des femmes et aux négociations pour la paix. Elle dirige aujourd'hui le cabinet ESNE. Conseil de l'ambassade de Norvège et préside la coalition des femmes leaders nord, sud et centre. Madame Fatima Maïga, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Koïta et bonjour à vos auditrices et à vos auditeurs et j'espère aux autorités qui nous écoutent.
Alors, dans notre émission, nous allons parler de la situation actuelle de l'excision au Mali, les enjeux sociaux, le cadre juridique ainsi que les conséquences de cette pratique pour les femmes. Également, dans ce numéro, nous allons entendre le docteur Mahamadou Soare, médecin des familles et nutritionniste. Il nous donnera son avis d'expert de santé sur l'excision. Nous allons également entendre un imam, il s'agit d'Aboubacar Doucouré. Il est islamologue et membre du Haut Conseil islamique du Mali. Madame, dites-nous pourquoi l'excision continue de susciter autant de débats aujourd'hui au Mali.
Parce que d'abord, c'est une pratique qui malheureusement perdure. Personnellement, je mène ce combat, c'est un sacerdoce, c'est une mission depuis 30 ans au moins. Et ça perdure, ce sont les chiffres qui le disent, avec très peu d'inflexion dans la pratique, puisqu'on est environ à 89% de prévalence au Mali. Chez les 15-49 ans, un peu moins, à environ 79-75% pour les moins de 14 ans, moins de 15 ans. Ça veut dire qu'il y a un petit changement, mais globalement depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis un demi-siècle, la pratique reste sur la même trajectoire. Donc c'est quelque chose d'actualité. Mais qu'est-ce qui fait que ça remonte? Il y a des impulsions et certaines sont inquiétantes plus que d'autres. Si vous voulez qu'on en parle, il y a ce qui se passe en ce moment, cette campagne, cette mobilisation que moi je trouve extrêmement salutaire, mais pour laquelle il faut faire très attention parce que ce qui nous importe, c'est que ça aboutisse. Or, je ne sais pas si le nouveau combat, les enjeux de rapport de force sont bien mesurés par ceux qui ont commencé cette nouvelle impulsion que je soutiens énormément. Donc ça suscite des débats, mais pas de manière spontanée en réalité. Je m'explique. Par ceux qui sont contre, ce n'est jamais spontané. Ils sont dans un combat politique. C'est ce que je maintiens. C'est un combat politique avec des stratégies, avec toute une ingénierie. C'est d'ailleurs pour ça qu'une pratique qui est essentiellement culturelle a été ramenée sur un champ religieux, politique, alors que c'est une pratique qui n'a rien à voir avec l'islam ou d'autres religions du livre.
Alors, comment définissez-vous cette pratique du point de vue des droits de l'homme?
C'est un crime, tout simplement. Je pense que j'aimerais qu'on revienne à des fondamentaux pour tous ceux qui ont pu assister à l'excision, très différent de la circoncision, hein, parce qu'il faut qu'on visualise ce que c'est. Ce que c'est de prendre un bébé. Parce que avant que ces débats se fassent, on le faisait très tôt, pratiquement à quelques mois. Imaginez ou à des fillettes environ de 10 ans, n'est-ce pas? Imaginez ce que c'est de prendre un enfant, de la maintenir souvent dans des latrines, de la maintenir et de prendre des lames très souvent infectées ou qui ne sont pas du tout stérilisées et de lui couper ce qu'on a, son clitoris, en tout cas, parce que je m'excuse, il faut qu'on parle aussi. Au Mali, nous avons les quatre formes d'excision, c'est-à-dire ça va de la forme 1, c'est-à-dire qu'on va couper une partie des deux lèvres et du clitoris jusqu'à l'ablation totale et l'infibulation, qui se passe généralement dans les régions comme Akai. L'infibulation, c'est non seulement ôter pratiquement toutes les parties génitales extérieures, le clitoris y compris, et coudre, et dans certains cas, coudre et mettre en place un certain nombre d'ointments, de pâtes, souvent faites de végétaux, pour que la cicatrisation forme une boule qui va rendre plus tard toute forme de rapport sexuel ou d'accouchement extrêmement douloureux et extrêmement dangereux. Donc c'est une torture indicible. Et je pense que c'est important que les gens visualisent ce que c'est. Vous savez que notre constitution interdit toute forme de torture et de cruauté. C'est une des pires qui puisse être faite. Ça, c'est dingue. Deuxièmement, pour ceux qui ne peuvent pas se les imaginer, nos hommes, je vais peut-être faire les aider. Parce qu'on aime à mère faire un amalgame entre l'excision. Si on veut faire un parallèle entre les deux, ce serait de mutiler un quart du pénis masculin, qui est moins innervé que le clitoris féminin, puisque cette partie de la femme a plus de 10 000 terminaisons nerveuses, plus sensibles. Donc ce serait amputer cette partie du corps masculin, ce qui, qui ne pourrait jamais être ni accepté ni justifié comme le fait pour l'excision féminine, qui est en réalité une mutilation parce qu'on enlève à la femme un corps sain. C'est l'une des raisons pourquoi on a eu au moins un niveau de courage au Mali en interdisant la pratique en milieu hospitalier, parce qu'un docteur n'a pas vocation à mutiler, il a vocation à guérir, et on ne peut pas enlever un corps sain comme on le fait avec la mutilation génitale féminine.
Alors, pourquoi est-elle considérée comme une violence basée sur le genre?
Parce que, justement, je viens de le dire, on le fait parce que la femme est une femme. Parce que il y a, avec la notion qu'on a de la femme, la perception très répandue qu'elle est un objet, elle appartient à l'autre et son corps appartient à d'autres.
Alors, justement...
Et que son désir peut être un danger pour la société, pour l'homme. Voilà pourquoi on appelle ça une violence basée sur le genre, c'est-à-dire basée sur la définition, sur toute la signification culturelle qu'on donne à la femme au-delà de ce qu'elle est du point de vue biologique. C'est-à-dire tout le bagage culturel qui vient lorsqu'on est femme.
Alors, justement, quels sont les principaux droits des filles concernées par la pratique?
Le premier droit, c'est le droit à l'intégrité corporelle, c'est-à-dire le droit de naître et de rester de la manière dont on a été conçu. Encore une fois, c'est un corps sain qu'on enlève. Donc, on touche à l'intégrité de la femme, son corps. Et puis, il y a le droit à la vie, puisqu'on le sait. C'est une pratique qui a ôté la vie à énormément d'enfants, de jeunes filles et de femmes. Soit au moment même de la pratique, à cause des hémorragies, à cause des infections, soit à travers les comorbidités que ça va entraîner. Et ça, nos femmes, nos sages-femmes, comme nos médecins qui reçoivent des femmes, qui voient comment certains accouchements sont pratiquement impossibles, pas seulement lorsqu'il y a l'infibulation, mais... par rapport à d'autres formes dites moins sévères, il y a énormément de problématiques sanitaires qui viennent avec le fait de vouloir couper ces parties-là de la femme. Il y a bien sûr ensuite toutes les questions psychologiques, mentales qui viennent avec, et certaines qu'on ne voit pas, c'est-à-dire le droit à être accepté comme on est pour les personnes qui n'ont pas été excisées, parce que ça, c'est un aspect qu'on n'évoque pas souvent. Ce sont des personnes qu'on va appeler des déviations positives, c'est-à-dire beaucoup d'ethnies chez nous, quelques-unes, comme chez les Sonraï, les Arabes et les Touaregs aussi. Ce n'est pas une pratique. Mais nous avons recensé parmi les filles qui n'ont pas été excisées, des stigmates, une stigmatisation comme étant des personnes qui ne sont pas propres, qui ne sont pas pures, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dignité qu'on enlève aux femmes et aux filles qui ne l'ont pas été. Et inversement, il y a eu aussi parfois des erreurs dans les campagnes qu'on a faites, où on a pu présenter la majorité des filles et des femmes au Mali qui sont excisées comme étant des femmes qui sont moindres en termes de féminité que d'autres. Voilà. Et souvent, ça a créé un backlash de femmes excisées qui nous ont souvent dit, nous ne voulons pas que vous fassiez notre portrait comme étant des femmes diminuées, même si elles le sont, pour beaucoup. Nous sommes des femmes à part entière. Nous sommes certes des victimes, mais nous ne sommes pas que des victimes. Donc vous voyez, il y a énormément de dimensions et d'aspects qu'il faut prendre en compte par rapport à cette problématique.
Alors vous êtes une actrice majeure hein, de l'autonomisation des femmes. Quel est l'impact de l'excision sur l'autonomisation justement des femmes selon vous?
Écoutez, ce sont des questions qui souvent nous amènent un peu loin. Moi je pense, la façon dont c'est formulé, ça peut nous amener loin de ce qui importe en réalité. Ce qui importe, c'est, à mon sens, c'est qu'il y ait un consensus sur le fait que cette pratique est une pratique à la base traditionnelle et qu'elle est néfaste. Et comme d'autres pratiques traditionnelles néfastes, imaginez-vous, il y a quelques siècles, ou même encore pour certains, on faisait des sacrifices humains, on immolait des personnes. Ce sont des pratiques qui étaient aussi ancrées dans nos croyances, mais elles ont été expurgées, elles ont été abolies parce qu'il y a eu un consensus sur le fait que ce sont avant tout des crimes. On est d'accord. Donc ce qui, au-delà de l'impact que ça va avoir par exemple sur les revenus, sur la capacité des femmes à exercer, qui parfois va tellement varier, ce qu'il faut poser comme fondamental, c'est que c'est un crime, c'est une violation fondamentale des droits basiques des femmes qui sont comme des hommes, des personnes humaines et qui doivent être protégées, qui doivent vivre en dignité. Maintenant, il y a des études qui vont... C'est difficile de faire, je vais dire, un lien entre le fait d'avoir été excisé et, les moyens de subsistance. Mais imaginez simplement une femme qui a été excisée vers l'âge de 10 ans. L'excision n'est jamais ex nihilo. L'excision vient en package. Nous avions l'habitude de dire que l'excision était un indicateur témoin. Dans les pays où on pratique l'excision, vous verrez un certain nombre de pratiques qui consistent à brider la femme, à la soumettre. Donc il va y avoir dans le même pays souvent la pratique du mariage forcé, du mariage précoce. Il va y avoir le fait d'enlever l'enfant de force de l'école, n'est-ce pas? Il va y avoir des violences parce que son statut est un statut de personne qui dépend des autres, qui n'a pas la même humanité, qui n'a pas bien sûr les mêmes droits. Donc quand vous mettez toutes ces choses ensemble, parce qu'il faut les mettre ensemble, vous ne pouvez pas voir l'excision en isolation de tout ce corpus, parce qu'il y a une raison pour quand on le fait au niveau traditionnel. Même si ensuite, comme je vous ai dit, il y a eu des interprétations religieuses totalement fausses, mais très pensées, parce qu'il s'agissait en fait pour les tenants du maintien de la pratique au nom de l'islam, ce n'est pas du tout fait de manière de manière inopportune. Ils le font justement parce qu'il y a un calcul politique et j'espère qu'on va revenir sur cette question.
Si, on
va y... Donc tout ça mis ensemble va faire que ces personnes qui subissent l'excision, en dehors des conséquences, on va dire, physiques qui peuvent les incapaciter et les empêcher, parce qu'il y a vraiment ces cas de figure, il va y avoir, si vous voulez, un travail, un conditionnement avec l'ensemble de ces pratiques qui vont faire en sorte que la femme va rester dans son rôle qu'on appelle le rôle reproducteur, c'est-à-dire son rôle principal, c'est de faire des enfants, d'élever des enfants et d'avoir un appétit ou des capacités, des compétences amoindries par rapport à son rôle producteur économique, même si, disons-le bien, je le dis bien, l'excision n'empêche pas aujourd'hui les femmes maliennes d'être à la base de 80% de la production alimentaire. Ce sont la main-d'œuvre agricole au Mali, elle est à 70% féminine. Donc c'est nous qui nourrissons la population. Donc le lien n'est pas direct. Mais le lien est un ensemble de facteurs qui, combinés, vont brider et amenuire les perspectives et les opportunités des femmes, y compris au niveau économique.
Alors, comment expliquez-vous la persistance de la pratique dans ce cas?
Écoutez, je pense qu'il faut regarder l'excision sur le long cours. Comme j'ai dit, moi j'ai commencé dans les années 90 et j'ai trouvé nos mamans, hein, par exemple les Mariam Lamizana, l'ancienne ministre de la Femme du Burkina. Ça, je vous parle des années 80 où il y avait le comité interafricain de lutte contre l'excision. Et c'est important pour ceux que j'entends sur les médias nous dire que c'est un agenda étranger, etc. En fait, nous sommes, nos mamans et nos devanciers, nous-mêmes, nous sommes habités par une cause de très très longue date. Et en fait, on a travaillé dans des conditions extraordinairement difficiles. Je me souviens de celles qui nous ont devancés, qui nous disaient comment elles étaient chassées des vestibules quand elles osaient venir. Ce n'est pas l'argent qui a été la force de motivation principale, mais la conviction profonde qu'il y avait là un crime qu'il fallait faire arrêter. Donc, quand nous avons commencé, quand nos mamans ont commencé à 30-40 ans, nous étions à des taux comme ça, hein, des prévalences de 91% pour le Mali, le Burkina, c'était très élevé aussi, le Niger un peu moins, la plupart des pays de la CEDEAO était à des niveaux de prévalence de plus de 50%. Ce qui a marché dans les pays qui ont vu une réduction, même si au début il y a eu beaucoup de polémiques, c'est les lois. Si on prend le Burkina qui était à 70% et plus au moment où ils passaient leur loi en 96, si je de mémoire, ils sont maintenant à moins de 10% chez les moins de 15 ans. Vous voyez ?
Okay.
Ce qui marche donc, les lois marchent, même si ça prend un petit peu de temps d'inertie. Les lois, c'est l'expression d'une volonté politique. Cette volonté politique, ça veut dire c'est soit le gouvernement qui décide de passer une loi, parce qu'on peut faire passer les lois de deux manières, donc une volonté politique de l'exécutif, ou alors l'Assemblée qui fait une proposition de loi, c'est-à-dire les représentants du peuple qui décident qu'ils ont entendu le peuple et ils vont passer une loi. Si ces pays l'ont fait, encore une fois, c'est qu'il y avait une volonté de l'un ou l'autre côté du pouvoir, et ils l'ont fait malgré ce qu'on avance ici, malgré ce qu'on appelle une opposition énorme. En réalité, nous, on a vu que les positions, ce n'est pas ton fermier, ce n'est pas le paysan Brahma ou bien la paysanne Kajablin qui s'oppose de manière aussi forte en réalité. Parce qu'au début de la lutte, on a vu une inflexion très grande. On a vu des villages abandonnés par milliers. Donc, il faut que les gens comprennent. L'opposition ne vient pas réellement de là d'où on pense. D'ailleurs, vous verrez très peu de chefs de villages venir sur les médias en parler.
D'accord.
Qui en parle? Qui, à partir, je dirais, des années 90, commence à en parler dans les radios? Avec quels moyens? Qui finançait ces radios communautaires qui, tout d'un coup, s'emparent de la question? Et si vous regardez la concomitance de cette résistance que moi je dis financée de l'extérieur, et je reprends ça à certaines personnes qui se disent journalistes ou influenceurs, qui nous ressortent la vieille berceuse comme quoi les femmes maliennes sont mues de l'extérieur par ce combat financé de l'extérieur, je dis que c'est eux qui sont financés de l'extérieur. Parce qu'en fait, ce n'est pas notre lutte qui a été financée de l'extérieur, c'est la riposte à cette lutte qui est financée de l'extérieur. Donc, je fais un grand tour. Je pense que le maintien de la pratique n'est pas tant dû à l'attachement culturel à la pratique, mais c'est dû à cette ingénierie qui a fait un amalgame entre la pratique, c'est-à-dire ses aspects culturels, et ses aspects religieux. Parce que ces gens qui l'ont fait perdaient du terrain. Ils voyaient bien qu'on arrivait à infléchir les positions. Nous avions un moment des pères de famille. Nous avions des imams qui sont venus clarifier le message. Nous avons formé des imams à l'université Al-Azhar, qui est, on va dire, l'équivalent du Vatican, en matière de positionnement, de clarification du dogme ou même des hadiths. Eux étaient sur le point de faire abandonner la pratique, encore une fois, jusqu'à certaines impulsions. Et j'aimerais que le peuple malien sache ce qui se passe. Non, ce n'est pas nous qui sommes financés de l'extérieur. Oui, effectivement, nous avons notre cause en laquelle nous croyons et nous avons été soutenus, souvent aussi par nos gouvernements, il faut le dire, parce qu'on a des stratégies nationales de lutte. On avait un programme national de lutte contre l'excision au Mali. Ça veut dire qu'il y a une volonté chez nous. Et puis, entre nous, nous avons des ethnies qui n'ont jamais pratiqué l'excision, donc on ne pourrait jamais leur dire à eux qu'ils sont financiers, qu'ils ont des points de vue qui viennent de l'extérieur. Donc ce n'est pas opérable. Le maintien de la pratique, je le dis, est dû à cette ingénierie qui fait que, au fur et à mesure où l'islam politique se développe dans nos pays, je dirais à la faveur également de l'ouverture, du multipartisme, de l'ouverture des associations, on a vu la NUPI, on a vu d'autres institutions, elles commencent à s'emparer globalement de l'agenda des femmes. Et elles vont le combattre, ces forces islamistes intégristes, et souvent accompagnées des forces ultra-conservatrices de tous bords, il n'y avait pas seulement les musulmans, vont commencer à aller investir ce combat au sein de l'Assemblée. C'est pour ça qu'il y a eu la débâcle du code de la famille. Mon point de vue est que, en politisant cette question avec les deux autres questions qui sont souvent récupérées, c'est-à-dire l'excision et la lutte contre, enfin, l'homosexualité et la laïcité, ces personnes-là qui cherchent en fait le pouvoir politique commencent à rentrer dans un rapport de force avec l'État. Est-ce que vous voyez ? En utilisant une problématique qui est très fertile, parce qu'ils savent que c'est pratiqué par beaucoup de gens, vous voyez ? Et ils savent que, il faut le dire, parce que notre islam est un islam qui reste largement ignorant, très peu de gens lisent le Coran, se font dire ce que le Coran dit, il était plus facile pour eux de commencer à créer la confusion entre cet acte qui n'a aucun caractère islamique, qui était avant tout une pratique donc pré-islamique et traditionnelle, ils vont en faire quelque chose de licite et de recommandé. Parce qu'eux ont les moyens. Quand, encore une fois, ils reçoivent des pétrodollars, d'autres financements, ils peuvent sortir ce combat du village. Encore une fois, Mamadou et Kadja, eux ont leur mot à dire, mais n'ont pas le pouvoir de s'opposer au pouvoir politique. Donc moi je dis que ce sont des questions qui sont presque tout le temps récupérées par certains tenants de ce que j'appelle l'islam politique. Et ils ne sont pas que des salafistes, il y a également, par exemple, le shérif de Nuoro s'est beaucoup opposé à la pratique pour des raisons diverses. Donc pour moi, et c'est ce que j'ai envie de dire à nos jeunes sœurs et nos jeunes frères, comme le docteur Soiré, qui ont décidé, sans financement, parce qu'il faut toujours répondre à nos détracteurs qui disent que c'est avec l'argent, le mouvement là qui est en train de se mettre, de lutte, personne ne peut dire que c'est avec l'argent, mais c'est avec le pouvoir des convictions. Ce qu'on voudrait leur dire, nous qui sommes dans ce combat, c'est qu'il faut qu'ils appréhendent et comprennent et cernent énormément les enjeux. Que ceux qui veulent en faire des questions, une question politique qui vont amener sur le débat de la scène, ils le font souvent à des moments précis de la vie politique. Et c'est très généralement pour engager des bras de fer avec l'État. C'est pour ça que j'aimerais m'adresser avec beaucoup de respect à nos autorités, au président de la transition, son général de corps, Assimi Goïta. Et en même temps, parler à ceux qui commencent à mener le combat. Il y a deux façons de le faire aboutir. S'il s'agit de la loi, qui n'est pas la fin du combat, puisque c'est soit l'exécutif qui peut entamer par un avant-projet de loi la question, ou le CNT qui fait office d'Assemblée nationale, qu'ils aient parlé au président de la transition, qui négocie avec lui en lui faisant comprendre qu'aujourd'hui, les femmes maliennes les hommes maliens ne veulent plus de cette pratique, qu'elle est contraire à nos législations existantes, la constitution, même le code pénal révisé, qui, même s'il ne mentionne pas l'excision, contient des dispositions qui peuvent s'appliquer pour les gens qui agressent le corps des femmes, n'est-ce pas ? Qui négocie ? C'est ce que nous avons fait en son temps avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, et la ministre Oumouba, paix à son âme. Ce sont toutes les deux parties. C'était un partenariat, c'était un accord entre lui, le président Ibeka, paix à son âme, et la ministre Oumouba, qui nous a aussi quittés malheureusement il y a quelques mois. C'est comme ça que ça se fait. Et bien sûr, il faudra lui apporter au président et aux membres de son cabinet, ceux qui le conseillent, toutes les preuves qu'aujourd'hui, cette pratique-là n'est pas en réalité populaire. Elle est maintenue par certaines personnes avec un agent politique. Donc, son combat, elle est le nôtre. Faire en sorte de déjouer cet agenda politique est non seulement salutaire, il est essentiel. Et nous, bien sûr, on en ressortira avec plus de protection pour nos filles.
Alors, vous avez parlé de cette volonté politique, mais quel rôle joue la pression sociale également ?
Mais c'est ça qu'il faut voir. Mais qui fait la pression sociale ? Regardez, nous avons vu une campagne d'affichage avec quelques hommes qui disent oui à l'excision, que ça ne gêne pas hein, de montrer la lame qu'eux-mêmes n'ont jamais vue contre leur propre corps. Sinon, ils auraient la décence, sinon l'humanité, de ne même pas mettre ça. Vous avez vu les affiches. Qui sont-ils ? Est-ce que vous avez une idée de ces personnes-là ? Pour la plupart du temps, ce ne sont pas des traditionnistes. Hein. Il y a, par exemple, une de ces personnes qui a été démasquée. Je pense qu'il travaille pour une agence internationale qui se trouve dans un pays européen. On a, je ne sais pas, on a vu le visage de l'imam Diko, mais je ne peux pas dire s'il est à l'origine de l'affiche ou si c'est de l'IA. Ce sont des gens qui sont souvent avec un certain niveau d'éducation, donc très loin encore du foin du paysan qui serait là engouffré dans les pesanteurs et les croyances moyenâgeuses. Non, il faut voir le profil des gens qui s'opposent activement, vocalement. Et ça vous dit que la pression n'existe pas en réalité. Nous, je vous dis qu'on le sait, nous qui avons travaillé sur le terrain, et c'est le lieu de saluer des organisations comme la PDF, WILDAF, ASTAP, qui sont tout le temps sur le terrain. À l'époque, FCI, la boîte pour laquelle je travaille. Nous, on a vu l'abandon. On a vu des milliers de villages abandonnés. L'impression qu'il y a une pression, elle vient de ceux qui ont besoin de ce crédit politique pour se donner de l'importance dans leur rapport de force avec l'État, pour lui dire « fais attention, nous avons tout ce peuple derrière nous. Et le jour où vous allez oser passer cette loi, vous verrez, ils vont se soulever. » Et le génie de cette génération, avec TikTok, avec le reste, c'est que eux, ce sont aussi des influenceurs. Eux, ils ont un rapport fusionnel quotidien avec la population. Et je pense qu'il va y avoir une confrontation de qu'est-ce qui est réellement aujourd'hui la volonté des Maliens. Mais il n'y a pas de pression pour le moment.
À présent, écoutons l'avis du docteur Mahamadou Soumaré. Et Soaré, il est médecin de famille et nutritionniste. Il nous donne son avis sur la question.
De façon générale, l'excision, la première conséquence, ça va être l'hémorragie. Quand on coupe, ça saigne. Et ça saigne souvent très abondamment. Et si la personne a une maladie telle que l'hémophilie, où c'est très difficile d'arrêter le sang, souvent la personne peut perdre la vie. Donc, chez l'enfant ou chez l'adulte, l'hémorragie, il y a la douleur qui suit aussi, parce que la fille perd tout un organe entier. Et souvent, ça, c'est des conséquences à court terme. Les conséquences à long terme, ça peut être la mauvaise cicatrisation peut entraîner des conséquences dans le couple. chez l'adulte. Parmi les complications à long terme, ça va être au moment de l'accouchement, la mauvaise cicatrisation fera en sorte que la peau va perdre certaines fonctionnalités telles que l'élasticité. Donc le fait que la peau ne peut plus être souple pour s'ouvrir facilement, pour laisser passer l'enfant, cela peut causer des souffrances fœtales chez l'enfant, ou même souvent la mort fœtale, ou bien causer à décider, entraîner le médecin à décider de faire une césarienne pour éviter, ou bien faire une épisiotomie, c'est-à-dire essayer de diriger la déchirure pour pouvoir faire sortir la tête de l'enfant. Et cette déchirure, souvent, si ce n'est pas observé par un médecin, pourront entraîner aussi des fistules, ou parce que si ça se déchire en avant, ça peut aller dans la vessie. Si ça se déchire en arrière, ça peut aller dans le rectum. Et les deux peuvent causer des problèmes sérieux chez la femme, parce que vous allez avoir une femme qui ne peut plus soit contrôler les selles ou bien ne peut pas contrôler les urines. Et c'est très, très grave. Alors, d'autres conséquences, ça peut être aussi au moment des rapports sexuels. Et voici des femmes, souvent, qui, soit elle ne peut plus jouir, là, qu'elle ne peut plus avoir toutes les fonctionnalités de sexuelles, c'est-à-dire le plaisir sexuel, ou bien souvent, c'est des femmes qui peuvent avoir même des douleurs aussi. Et il y a des infections à répétition aussi, comme on a dit, chez la petite fille, où souvent, lorsque c'est mal cicatrisé, et souvent, le vagin a tendance à couvrir un peu une certaine partie du méa urétral. Ce qui fait que l'urine va continuer à couler à l'intérieur et l'urine peut souvent ne même pas sortir aussi. Et voici des petites filles qui vont se retrouver en insuffisance rénale à cause des complications liées à l'accouchement, à cause des complications liées à l'excision. Bon, le message est simple. Il faut absolument qu'on arrête l'excision. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bénéfice à exciser une fille. Aucun. Tous les experts sont unanimes là-dessus. Toutes les théories qui avaient été inventées ou fabriquées dans le passé, la science a pu démontrer que ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun bénéfice à couper l'organe d'une femme parce qu'on veut faire ceci ou on veut faire cela. Donc, la fonctionnalité totale, la femme doit disposer de son corps en entier. Donc, j'appellerai les parents à arrêter cette pratique et que cette pratique n'est pas bonne pour la femme, ce n'est pas bon pour la fille, ce n'est pas bon pour le mari aussi. Donc, du coup, lorsqu'on arrête, non seulement on bénéficie, on va économiser beaucoup d'argent parce que tout l'argent qu'on va investir, qu'on va mettre dans la réparation sera fait pour autre chose. Et on pourra économiser cette somme-là. Et la fille aussi va vivre et va s'épanouir aussi dans son foyer normalement et comme si de rien n'était. Le 22 août, c'est une activité où on a invité des experts qui vont venir parler de l'excision et surtout des dangers liés à l'excision. Et on va aussi essayer d'écouter la société civile, c'est-à-dire les imams et puis les hommes de culture aussi, pour pouvoir avoir le perspective de chacun et pouvoir maintenant envoyer ce message-là au grand public. C'est-à-dire le grand public n'est pas invité à l'activité, ce sont les invités et les spécialistes là qui sont invités, mais certains médias vont venir pour couvrir, pour pouvoir retailler et relayer ce message-là au grand public. Donc c'était un peu l'objectif de notre activité.
Vous êtes sur Djeliba FM 105.0, vous êtes dans l'émission, vous suivez l'émission, vous écoutez l'émission Regard sur l'actualité présentée par Omar Kouita. La mise en onde est assurée par Boubacar Traoré, Grand B. Notre thème du jour porte sur l'excision qui fait des débats et des controverses dans notre pays. Notre invité est Madame Fatima Maïga, experte en droits humains, genre et autonomisation des femmes. Alors Madame, vous avez écouté le docteur et que pensez-vous de ses propos?
Alors, moi je félicite docteur Soiré. Et je veux relayer son invitation à cette mobilisation le 22 août. Il faut que tout le monde sorte. C'est tellement important, vous savez pourquoi? Parce que d'abord, il est un homme. Et on ne peut pas sortir l'excision de son substrat du patriarcat. Voilà. Je vais résumer ça par le témoignage d'un jeune homme il y a déjà 25 ans. C'était à Ségou, à Bienina, précisément, ce petit village, où nous faisions des enquêtes, des focus group. Et tout le monde disait que, en fait, on pouvait arrêter la pratique. Mais comment? Et Tchelakao, donc les hommes ont dit, honnêtement, nous y tenons, mais pas tant que ça. Si les femmes veulent arrêter la pratique, qu'on arrête la pratique. De toute façon, les excitées sont toutes les femmes. Ce sont les femmes qui amènent les enfants à l'excision. Et puis un jeune, à l'époque il avait 14 ans, il a dit « Hey, il faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui on dit que nous là, dans ce village et dans tous les villages au Mali, on n'épouse pas une fille tant qu'elle n'est pas entière, c'est-à-dire tant qu'elle n'a pas tout ce que vous lui ôtez là, dans un an, l'excision va s'arrêter. » Donc il dit « Ce sont les femmes qui ont le couteau. » Mais c'est nous qui dictons. Le jour où nous, les hommes, nous déciderons qu'on veut des femmes complètes, non excisées, l'excision s'arrêtera. Je veux donc dire que pour nous qui menons le combat, il est essentiellement fait par des femmes. Mais il y a eu des progrès exponentiels chaque fois que les hommes, en toute humanité, en toute responsabilité, ont reconnu qu'ils étaient à la base, même si ce sont des femmes, sont celles qu'on appelle les témoins du temple patriarcal, que c'est eux qui peuvent décider que ça s'arrête, parce qu'il y a la question de la marriageability, c'est-à-dire que toutes ces notions derrière, les raisons profondes derrière l'excision, le contrôle du désir féminin, le contrôle du corps, n'est-ce pas, la soumission à l'homme, ce sont des perceptions, hein, puisqu'on sait bien que des chiffres nous montrent que, excisé ou pas, il y a des grossesses non désirées, des rapports sexuels extramaritaux et tout ça. Et on sait que c'est le patriarcat. Donc cette prise de conscience, elle est première. La prise de parole publique, comme Dr Soary, qui est prudent, et c'est un docteur, il a parlé des aspects médicaux. Vous savez, on a tout essayé. Hein. On a essayé de convaincre que sur le plan de la dignité humaine, ce n'est pas bon. Ils nous ont dit, c'est pas grave, les filles n'en meurent pas. Et au contraire, ça les rend plus fortes. On a essayé de leur dire, c'est mauvais sur le plan médical. Ils nous ont dit, on nous a répondu, oui, mais plus de 90% des filles maliennes sont excisées. Si c'était mauvais, elles mourraient toutes. Bien sûr, ils n'écoutent pas toutes ces femmes qui sont en souffrance indicible. Ensuite, là où ça a été très puissant, c'est lorsqu'il y a eu la confusion, comme je vous ai dit, entretenue, en disant, bon, c'est pas grave. Même s'il y a tout ça, de toute façon, Dieu vous commande de le faire. Quand bien même, il n'y a pas une seule inscription. Et la parole, le patriarcat mélangé avec la parole divine, ça, c'est l'une des raisons fondamentales, à mon avis, pourquoi cette pratique est maintenue. C'est pour ça, d'ailleurs, que lorsqu'on demande aux personnes, aux femmes excisées, plus de 70% disent que c'est, il faut maintenir la pratique parce que Dieu l'exige. C'est une exigence religieuse. Vous voyez comment c'est puissant. Mais lorsque ceux qui sont les bénéficiaires de la pratique au nom du patriarcat viennent et disent non, basta, il faut arrêter, ça nous ouvre un boulevard extraordinaire. Lorsqu'il y a des imams, mais cette stratégie n'a pas toujours marché, les imams qui sont vraiment des vrais érudits, comme l'imam Sow, Aboubakar Sow, et avant lui, ses devanciers, on en a eu tellement, l'imam Diallo, énormément de gens disent, mais ça n'a rien à voir avec l'islam, en dehors de l'islam politique.
Okay.
Ça, malheureusement, leur voix a été très atténuée. On leur a dit, non, ils ont été financés par l'étranger. Parce que les gens qui s'improvisent connaisseurs en la matière n'ont pas 40 ans de combat comme nous. Donc, ce sont des gens qui utilisent, mélangent tout. Donc, je ne veux pas être très longue. Bravo à Dr Soary. Il faut qu'il fasse tout pour que des gens comme vous, Koïta, tous les hommes qui ont des filles, qui n'ont de toute façon pas envie de savoir ce qui se passe qu'il peut y avoir des complications, qu'ils ne vont de toute façon pas le faire, parce qu'ils respectent leur enfant, qu'ils ne voient pas la cause d'infliger une souffrance aussi absurde à leur fille, que ces gens-là parlent activement. Et on va y arriver, et encore une fois avec l'ingénierie, c'est-à-dire d'approcher directement les autorités pour leur dire « nous voulons la loi ». Souvent sans tapage, il faut faire des deals. C'est comme ça souvent que les lois passent, en montrant la preuve que le peuple est prêt au changement, parce que moi je sais qu'ils le sont.
Voilà. Alors après l'avis des docteurs Mahamadou Soare, écoutons également l'avis d'un imam. Il s'agit de l'imam Aboubakar Doukouré. Il est islamologue et membre du Haut Conseil islamique du Mali.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Iye ñiñgalim min kenna noye musouka nege korosigi. Musouka nege korosigi akuma mana Qur'ané kono. Kuma kanjelena kafo. Ko ka muso sigi nege koro. Mais musow ka nege koro sigi, aywa, dine be ani yoro sura la yoro min no islamiya ye, o de ye hadisa ye. Hadisa la hadisa min, ni kira sallallahu alayhi wa sallam ye bilasirali dɔrɔn de kɛ, a y'a ye a bɛ ka kɛ. Donc a y'a ye a bɛ ka kɛ, o kɔrɔ ye ko laada do. Wa anw yɛrɛ fɛ yan Mali kɔnɔ nɛgɛkɔrɔsigi ye laada ye, musow ka nɛgɛkɔrɔsigi laada don. Kira fana ka waati la sallallahu alayhi wa sallam laada kun don. A fɔra a ye a bɛ ka kɛ, a ye bilasirali de kɛ dɔrɔn k'a fɔ a kɛcogo ɲuman n'a ma ɲa ni laada don k'a b'a kɛ, n'a ma ɲa o kɔ a y'a kɛ ka ɲa, a y'a kɛ ka ɲa. Wa a y'o kɛcogo ɲuman in de fɔ u ye fana. Wala n'a b'a kɛ a kana tigi a kana fɛnkɛ min b'a tɔɔrɔ. Fa asimi wala tanhaki, dagolo in bɛ tigɛ cogo min nɔgɔya la ka o tigɛ, mɛ ko a kana bɛɛ tigɛ min bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ y'a tigi ma. Donc u bɛ ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ ni musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ye. I b'a fɔ k'a kɛcogo jugu minnu bɛ yen sisan ka musow degun n'a ye, medesini y'a sabati k'a fɔ degun bɛ minnu na, i b'a fɔ ko silamɛya ko don ka silamɛya tɔgɔ tiɲɛ. Ayi, au contraire, kira sɔlɔlɔ alayhi wasalam de kɛra médecin fɔlɔ ye pour que nɛgɛkɔrɔsigi a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na n'a ma ɲa ko laada don maaw bolo k'u b'a kɛ. A kɛcogo ɲuman min ni médecinw bɛ k'a fɔ bi n'a ma ɲa a kɛli kɔ k'i b'o kɛ pour que a kana kɛ degun y'a tigi ma, kira sɔlɔlɔ salama fɔlɔ de y'o fɔ san 1400 ni kɔ bi. Donc ni médecin bɛ yen min ye kɔrɔsili kɛ nɛgɛkɔrɔsigi ko la musow ka ko la pour que a kana kɛ tiɲɛni ye, o ye silamɛya ka kiraba in de ye sallallahu alayhi wa sallam. Donc laada bɛ yen, diinɛ bɛ yen, mɛ fo mɔgɔw fana ka dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ laada ma ko al-urf wal-adat. Diinɛ bannen tɛ laada fana ma koyi. Ni laada min tɛ diinɛ sɔsɔ, a tɛ diinɛ ka sariyaw sɔsɔ, ayiwa diinɛ bannen t'o ma. Fo mɔgɔw k'o fana dɔn. N'a fɔra laada a t'i b'a fɔ ko fɛn don min bɛ diinɛ kɔntoro la, ayi. A t'i b'a fɔ fɛn don fana diinɛ bannen don min ma, ayi. A t'i b'a fɔ fɛn don ko diinɛ sɔnnen don a bɛɛ ma, ayi. Diinɛ tɛ laada kɔn, a tɛ laada kɔntoro la, a tɛ ban laada ma. Mɛ ni laada min tɛ diinɛ ka sariya wuli kɔni, i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnw, a tɛ foyi tiɲɛ diinɛ ye. Donc diinɛ bɛ sɔn a ma, mɛ diinɛ m'a fɔ ko ka kɛ, silamɛya m'a fɔ yɔrɔ si ka kɛ, kuranɛ m'a fɔ ka kɛ, kira yɛrɛ m'a fɔ sɔlɔ salama hadisa kɔnɔ ko ka kɛ. Mɛ kira ye a kɛcogo jugu yɛrɛ de kɛlɛ ni nin kumakan ye, k'a fɔ a ye dɔɔni bɔ a la n'a ma ɲa wa kɛ a sanfɛla in na, mɛ aw kana bɛɛ tigɛ. Wala, donc hadisa min nana la o ye nin ye. Laadako ni diinɛko fana o yɔrɔ de ye nin ye. Laada de don, mɛ komi kira sɔlɔlɔ salam nabi ɲuman don, silamɛw ka ko ko hali ni laada don u b'a sara la k'a lagɛ n'a ni diinɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. A fana ye bilasirali kɛ o sira de fɛ. Donc diinɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ a la yɔrɔ min, o de ye k'a fɔ diinɛ bannen t'a ma, a bɛ bɛn diinɛ kɔnɔ. Parce que n'a kun tɛ bɛn diinɛ b'a fɔ, kira tun b'a fɔ sɔlɔlɔ salam ko k'a dabila ko haramu don k'a tɛ bɛn. Mɛ kira mun fɔ, kira ko n'a ma ɲa ko a y'a kɛ tan kɛcogo ɲuman na. Donc a bɛ fɔ o ma mubahu, min n'a dagalen don a bɛ bɛn, mɛ a ɲinilen tɛ, fɛn ɲinilen tɛ ko ka kɛ. A fɛn fu tɛ jamana kɔnɔ, a kan ka lagɛ de k'a dilan, ni tɔɔrɔ b'a la k'o bɔ a la. Mɛ k'a fɔ ko k'a kɛlɛ pewu, o fana tɛ hakilila sababa ye. Jama fanba, dɔnnikɛla fanba ka hakilila la, anw yɛrɛ fana ka hakilila la, k'a fɔ ko k'a kɛlɛ pewu, o ma nɔgɔn. Parce que ko min de don, aywa a donna laada kɔnɔ ka se niveau min na diinɛ fana ma ban ma hali ni diinɛ m'a laɲini diinɛ ye kocogo ɲuman fɔ an dun ka jamana fana ye laada jamana de ye diinɛ jamana don donc ka ko in kadire ka ɲɛ ka a kɔni a kɛcogo jugu k'o kɛlɛ o kɔni ça c'est normal kɛcogo jugu o be kɛlɛ cogo cogo ka kɛlɛ ten o kɛlɛ sira dɔ ye i n'a fɔ jamana yɛrɛ be se ka mɔgɔ dɔ spécialise baara in na muso dɔ spécialise a la oubien cɛɛ dɔw ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ o baara in bɛ kɛ o yɔrɔ la k'a bali a ka kɛ fan wɛrɛ fɛ n'o yɔrɔ tɛ pour que k'a kɔrɔsi ka ɲa donc ne hakili la n'a kɛra o kɛcogo la donc ko in bɛ kɛ basigi kɔnɔ a bɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔ a tɛ kɛ tɔɔrɔ ye a tigiw fana ma minnu bɛ baara in kɛ mais mɔgɔ minnu fana b'a essaye ka wuli k'u bɛ ko in kɛ kɛlɛko ye kɛlɛko tɛ k'a fɔ k'u bɛna nin ko in ta diinɛ tɔgɔ la k'u bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye ayiwa kɛlɛko tɛ nin ye dɛ nin tɛ ko la kumaba ye diinɛ kɔnɔ diinɛ yɛrɛ m'a laɲini mɛ diinɛ fana ma ban a ma a faamucogo ɲuman o y'o ye waakhiru daawana alhamdulilahi rabbil alamin ala k'an bɛn sababa ma.
C'était là Imam Aboubakar Doukouré, il est islamologue et membre du Haut Conseil islamique du Mali. Alors madame Fatima Maïga, vous l'avez entendu, hein. Que pensez-vous de son avis sur la question?
Je voudrais reprendre en bambara une partie.
Allez-y, allez-y.
On ne pas faux, parce qu'on va donc aller bas enfin faire là. Mais don akakuma don parti d'obéni toro doni oui mouye, c'est-à-dire que ka essayé ka interprétation do ke ka yira ko diinɛ ma an ka diinɛ ma fɔ ko ka jɔ d'abord a be hadisa mun fɔ an ka profɛte an ka ciba salayi wasalam e muso musomani kun b'a bolo denmuso kun b'a bolo ne yɛrɛ dɔ y'a dɔ ye n tɔgɔma ye a ma kɛ o ma sigi nɛgɛ kɔrɔ bon an ciba dun t'a yɛrɛ sɔsɔ dɛ ale kun nana ka ala ka mesaji lase de ani ka kɛ misali ye mun ka ɲi a b'a kɛ a dun ma kɛ a denw na o ye fɔlɔ ye a den ma siri nɛgɛ kɔrɔ bon u be hadisa mun fɔ ko profɛte salayi wasalam y'a fɔ k'a tɛmɛtɔ a ko ko a ko ni b'a kɛ n'a ma ɲa b'a kɛ a b'a kɛ dɔɔni hadisa kursi tɛ c'est-à-dire hadisa mun a be se ka fɔ
baro la
fɛn t'a la dutu t'a la o yɛrɛ hadisa ka dɔgɔ dɛ ale yɛrɛ hadisa be troisième quatrième c'est-à-dire hadisa mun do yɛrɛ mɔgɔ caman ko ko a disa authentiquelen tɛ o de kama arabi saudite an ka ciba be bɔ yɔrɔ min na o roi ma hadisa ko bɔ a la yira a ko parce que n'i y'a jati minɛ hadisa nunu caman hadisa nu nana ko fɛdeo hadisa nu tɛ kiɲɛ b'a dɔn a be mɔgɔ caman gene a mais an fɛnɛ sɔni do kuma ma mais pourkua an kana ta n'a ye mun ka daw ɲa an kɔni kɔnɔ excision ɲuman tɛ nɛgɛ seri musow ka nɛgɛ ka sigi nɛgɛ kɔrɔ k'a fitini wo a kumaba a dɔgɔmani a moyɛn a ɲuman si de tɛ a be jɔ an kɔni b'o de fɛ an tɛ se an t'a kɛ kɛlɛ o an b'a la peut-être presque un demi siècle an ta ye cause ye an ta tɛ politique ye donc an be continuer an be fɛ je vais venir en français on voudrait justement même le coran dans le coran c'est dit que voilà un livre clair qui pour la plupart des versets sont très clairs. Il y en a quelques-uns qui sont sujets à interprétation. Et celui qui a le cœur malade va surtout se focaliser sur ceux qui sont à interprétation. Le Coran, c'est très simple. En tant que religieux, ce que nous voudrions de leur parler, en tant que religieux érudit, c'est de dire, un, les livres sacrés, les livres de l'islam, le Coran ne parle pas de l'excision. 80% des cas d'excision à travers le monde sont en Afrique. La plupart des pays les plus peuplés de l'islam islamique ne pratiquent pas l'excision. Il faut arrêter d'entretenir dans l'esprit des Maliens et de ceux des autres pays où il n'y a pas de loi, où la pratique continue, qu'il peut y avoir une justification ou un lien entre cette pratique traditionnelle pré-islamique et l'islam. Ça, c'est ce qu'on leur demande. Il faut cette clarté-là. Nos clartés boraïens, encore une fois. Et nous ne voudrons pas revenir. Ce n'est pas possible pour nous de revenir sur les erreurs d'avant. Une stratégie bien essayée. Car exigeuse nous convertit. Car au bord à la barawere douma à ma marché. Car faux kokatige donio afin au ma marché. Ou bien fien moudi. Et puis, un y a faux mou fin mundo, cruauté mundo, indignité mundo. Abe l'atteinte au droit, elle ne peut pas être petite. Une fois qu'on atteint à un droit fondamental, on l'a atteint. Il ne faut pas encourager à dire de le faire. Il faut clarifier les messages. Et en fait, je vais vraiment finir par le dire. Ce n'est pas une question de femmes ou d'hommes, mm-hmm. même si c'est le patriarcat, il y a beaucoup de femmes qui soutiennent ça en tant que gardiennes du temple. Il faut donner la parole aux victimes. Il faut donner la parole aux jeunes de cette génération, celle, la génération de TikTok qui commence à entendre les messages. Il faut leur dire, est-ce que vous voulez continuer à assujettir un enfant de 10 ans, de 5 ans, qu'à s'inflammer, qu'à s'inflammer, qu'à n'y créer un cas là, au nom de quoi? John de Taï, John Yé, Mounabeke. Et ni mousso kokante fait akake, ni tchéo fene kokante fait akake, akadabla. Nous avons eu des pratiques traditionnelles néfastes, anyoubla. Mounou kany, angala daoumne, mounou mani, angabla. Voilà. Mais mon refin febé donc combat là de manière ambivalente, mon tout cas et message précisé. C'est la même au kato, c'est la même à la. Au cas for mon fora. Au théâtre. Mais qu'à avis dit, au banc gêné parfois, ni avis bébo, ou qu'à juridiction, ou qu'à expertise là. Opinion, ni mon refin qui a opinion mne. Parce que opinion, c'est à moitié de la vérité et le mensonge. Nous voulons de l'expertise. Nous voulons de la clarté et plus que tout, nous voulons de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de raison que les filles maliennes, les africaines, continuent à subir une pratique au nom, soi-disant, du fait que c'est une pratique traditionnelle, alors qu'elle contrevient à tout ce qui est le plus fondamental dans nos croyances. Voilà.
Alors, quelle est la situation réelle de la pratique au Mali? Je parle des cadres juridiques, des chiffres peut-être.
Bon, on n'a pas de loi. Il n'y a pas de loi contre l'excision au Mali. C'est le seul pays de l'AES qui n'a pas de loi, puisqu'on est dans l'AES. Mmh. C'est le seul pays dans l'Afrique de l'Ouest qui l'a... Enfin, avec le Libéral et la Sierra Leone, avec des, ça, les profils sont différents. Donc, nous n'avons pas de loi et les lois marchent. Allons à la loi. Il y a des interprétations qui disent, bien sûr, que l'avant-projet, le code pénal révisé peut prendre en charge l'excision, mais l'excision n'est pas cité dans, ce, dans le code pénal. Et comme on, certains juristes nous disent, si le crime ou l'infraction n'est pas cité, n'est pas qualifié, le code pénal n'est pas vraiment opérant. Et d'ailleurs, il n'y a jamais, depuis que le code pénal n'y révisera, en 2024, il a été révisé, on n'a jamais eu un cas porté devant les juridictions pour essayer de voir si le code pénal, tel qu'il est, peut s'appliquer pour les gens qui enfreignent. Qui continue à exciser. Parce que l'une des difficultés, qui va le faire? Puisque quel est le papa qui a laissé sa fille être excisée ou la maman qui a laissé sa fille être excisée, ensuite aller porter plainte? Donc, on veut une loi. Il y a un avant-projet de loi contre les VBG qui, de manière explicite, veut inclure l'excision dedans, qui traîne depuis 2023. Il faut que ça passe. Et encore une fois, si on veut une loi contre l'excision, et je pense qu'on est à la fin de l'émission, il faut un débat sur l'ensemble de tout ce qu'il faut. Parce que ce qu'on veut, c'est que la pratique s'arrête. Et avec cette pratique-là, il y a plein d'autres pratiques associées, de contrôle du corps de la femme, du contrôle de la femme même, comme la loi qu'on demande sur les VBG, qui, elle, va regarder à la protection, à la prise en charge, qui est plus globale. Et ma dernière parole, c'est une invitation, une exhortation à ceux qui ont mené le combat sur contre l'excision, qui sachent que derrière, il y a 5-6 autres thématiques forcément reliées, le code de la famille, un certain nombre de dispositions qui maintiennent la femme dans cette position de statut inférieur à qui on peut, qui fait qu'on lui inflige pas mal de choses. Malheureusement, ce sont des combats, des questionnements qui vont venir. Et c'est ça qui est le plus essentiel et qui fait peur justement peut-être à nos autorités qui disent que si on commence par là, ça ne s'arrêtera plus. Mais c'est une très bonne chose en réalité. Parce que si on commence par là, c'est pour amener le Mali à une société plus juste, plus égalitaire en termes de droits et d'opportunités et de dignité. Il ne faut pas avoir peur de ce combat. Mais il faut le mener de manière stratégique et comprendre les enjeux face à nous.
Alors, vous avez parlé des conséquences. Hein. Vous êtes une actrice farouche, on l'a dit. Hein. Depuis très longtemps, vous luttez pour que cette pratique soit abolie. Alors, quel accompagnement est proposé aux victimes après avoir été, bien évidemment, victimes des...
Oh, il y a déjà, le premier, c'est la parole. C'est de pouvoir leur donner des espaces pour s'exprimer. Dieu merci, TikTok, Facebook, les femmes en parlent. Il y a des réponses qui s'organisent. Il y a déjà, vraiment, le cadre est là. Il y a des médecins qui prennent en charge, justement, le docteur Soiré, les complications, les fistules, tout ça est là. De plus en plus, comme cette jeune femme sur TikTok, elle propose des soins adaptés pour pouvoir ouvrir les femmes qui sont infibulées, pour pouvoir les traiter. Donc ce sont des ressources qui existent, mais sont à un état tellement faible par rapport aux besoins, parce que l'État ne finance pas suffisamment, les moyens ne sont pas là. Donc nous demandons à l'État de mettre les moyens. C'est d'abord une responsabilité étatique. Ce n'est pas celle des ONG. Les ONG, c'est par défaut qu'elles montent au créneau. Il faut que l'État finance la prévention, la prise en charge de ces questions-là, avec tout ce que ça demande de sensibilisation avant la répression. Et ça, donc, on veut de l'argent. On veut des financements. On veut le renforcement des capacités institutionnelles. Tout le secteur judiciaire doit être formé. Et bien sûr, on veut que les hommes se sentent en sécurité pour comprendre nos problématiques et venir en parler de manière à changer fondamentalement la donne pour cette génération et celle à venir.
Alors, vous avez parlé de la volonté politique, mais aussi de la pression sociale. Quel est le rôle que les mosquées doivent jouer et comment concilier l'aspect tradition et protection des filles aussi?
Que chacun reste à sa place. La mosquée, en tout cas les imams érudits, n'ont qu'à dire le texte.
C'est votre dernière
pas
question.
Voilà. Que chacun reste à sa place. Mmh. Ils ne sont pas là pour dire autre chose que ce qui est dit dans le Coran, comme notre professeur Wassalam, n'est-ce pas, qui reste dans le moins possible d'interprétation, qui disent que ce n'est pas une pratique islamique, n'est-ce pas, qu'ils fassent ça et que les professionnels de santé disent qu'eux ne pourront jamais le faire. Et si elle leur est interdit, petit, moyen ou grand, c'est interdit, comme j'ai vu l'imam Doucouré peut-être le préconiser. Et puis, pour nous autres, c'est d'accepter qu'il n'y a pas de monde prospère, il n'y a pas de Mali prospère avec de telles violations des droits humains et de nous attacher avec fierté à notre volonté d'être des pays attachés aux droits humains sans complexe, parce que ça ne vient pas de l'extérieur et parce que c'est le monde qu'on veut pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et donc ce combat, on va le mener jusqu'à la nuit des temps.
J'ai l'impression que même si on a 2 heures de temps, on ne va pas essayer de finir d'en parler. Alors nous arrivons au terme de cette émission. Merci à vous, Madame Fatima Maïga, d'avoir répondu à notre appel, surtout de nous avoir éclairé sur la question. Merci également à Dr Mahamadou Soare et à l'imam Aboubakar Doucouré pour leur contribution. L'excision demeure une question complexe qui touche la santé, aux droits humains, aux croyances et aux traditions. Le dialogue, l'information et la sensibilisation restent essentiels pour permettre à chacun de se forger une opinion éclairée. Merci, chers auditeurs. Restez à l'écoute de Joliba FM 105.0, le prochain numéro de Regard sur l'actualité et le mercredi prochain à la même heure. Très bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt, Inch'Allah.